Actu SF, les podcasts.
Je vais essayer d'évoquer en une heure et demie, et ça sera difficile, le corps secret musical de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc le programme que je vous propose, c'est qu'on va commencer par passer en revue rapidement les musiques qui sont dans le film tel que vous le connaissez. Je ferai quelques commentaires sur le choix de ces morceaux. Et ensuite, je prendrai la production du film dans sa chronologie, c'est-à-dire les 4 années pendant lesquelles le film a été développé. Et j'essaierai de vous raconter un petit peu quel a été le cheminement qui a conduit aux choix musicaux que vous connaissez, les différents musiciens, compositeurs qui ont été convoqués pour travailler sur ce film, les différentes musiques qui ont été testées en salle de montage, dont certaines ont été conservées, d'autres pas. Et je vous projetterai un certain nombre d'extraits vidéo pour vous présenter des séquences du film que vous connaissez, mais avec des musiques que vous ne connaissez pas, ou en tout cas pas sur ces scènes-là. Voilà, alors le film tel qu'on le connaît, donc il fait un usage important de la musique en quantité et puis en narration, puisque c'est un film dans lequel il y a très peu de dialogue, donc les scènes musicales ne sont généralement pas des scènes où la musique se superpose à des dialogues, mais des scènes où la musique est le seul moteur sonore du récit. En quelques mots, on va rappeler les musiques qui sont dans le film. Est-ce que dans la salle, vous avez tous vu 2001, l'Odyssée de l'espace, ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ce film? Levez la main ceux qui ne l'auraient jamais vu. Une personne, très bien. Alors vous avez le droit de rester, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais je suis particulièrement honoré par votre présence, dont j'ignore la finalité, mais bon, j'espère que ça va vous intéresser quand même. Alors vu que vous avez presque tous vu le film, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les musiques qu'on entend dans le film? Le Requiem de Ligeti, d'accord. Vous pouvez me chanter l'extrait du Requiem? Non. Alors, quel autre extrait? Alors, qui peut me chanter le début de Ainsi par les Zarathoustra? Personne? Oui, alors j'ai entendu les timbales, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans le film? Alors, le Danube bleu, qui peut me chanter le thème du Danube bleu? D'accord. J'ai entendu également Khatchatourian. Qui peut me chanter l'extrait de Khatchatourian? Oh, c'est très facile, c'est les cordes qui jouent à l'unisson. Et Lux Aeterna de Ligeti, qui peut me chanter le début de Lux Aeterna? Bah, c'est très facile. Pourtant, je vous montrerai tout à l'heure, le morceau commence par une note unique, ça n'a rien de compliqué. Qu'est-ce qu'on a oublié? J'ai entendu également citer Atmosphère de Ligeti. On a quasiment tout. Alors, on va vérifier. Aventure. Absolument. On va en reparler d'aventure. Tac, 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 tac. Alors, c'est pas mon ordinateur, donc évidemment. Comment on passe en. Diaporama. Donc ça, ce sont les écrans titres du générique de fin qui donnent les crédits des morceaux qu'on entend dans le film. Donc Khatchatourian, si ça bouge tout seul, je ne serais pas content. Khatchatourian, donc on l'a cité, c'est un extrait d'une musique de ballet, un ballet qui s'appelle Gayané. Alors Khatchatourian, c'est un compositeur soviétique un petit peu oublié aujourd'hui. Il a quand même écrit un morceau qui est extrêmement célèbre, qui est tiré du même ballet. Vous savez, La danse du sabre, que je ne vais pas vous demander de chanter, mais voilà, qui est à peu près l'un de ses seuls morceaux qui a survécu, en tout cas comme en tant que musique populaire. Ensuite, le générique nous cite Ligeti, 3 œuvres. Atmosphère, qui est une œuvre pour orchestre. Lux Aeterna, qui est au contraire une œuvre pour chœur a cappella, et j'en reparlerai. Et le Requiem, qui est alors une œuvre assez monumentale pour 2 chœurs, solistes et orchestre. Il y a une 4e œuvre de Ligeti qui est utilisée dans le film et qui n'est pas créditée au générique. On en reparlera ensuite. Johann Strauss, Le Beau Danube Bleu. et Richard Strauss, ainsi par les Zarathoustra. Alors, vous remarquerez que sur cet écran, bizarrement, il n'y a aucun crédit. Ça, c'était une demande de la maison de disques. C'est-à-dire que Kubrick avait choisi une interprétation dirigée par Karajan. Et la maison de disques DECA, à qui les droits ont été demandés, a dit, écoutez, il n'y a aucun problème. Vous allez nous faire un petit chèque, on est content. Par contre, bon, c'est un film de science-fiction, ça nous embête un petit peu quand même d'être associé à cette entreprise assez peu noble. Donc, vous ne mettrez pas le nom de l'orchestre ou du chef d'orchestre, ni le nom de la maison de disques, vous êtes gentil. Résultat, quand Karajan a vu le film en salle et qu'en 3 secondes, il a reconnu que c'était son propre enregistrement et qu'il a vu à la fin que son nom n'y était pas, il était furax. Et puis DECA a tout perdu parce que ce qui s'est passé, c'est que comme il ne voulait pas être associé au film de façon visible, bah, ce n'est pas l'enregistrement qui a été choisi pour être sur la bande originale du film, ce qui explique qu'ensuite, pendant 30 ans, c'est une autre interprétation de ce morceau qui est sur la BO du film, qui s'est très 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 bien vendu. Et puis, des tas d'autres maisons de disques se sont engouffrées dans cette faille et se sont dit, eh bah tiens, nous, on va sortir des disques avec Zarathoustra, en marquant en gros, c'est la musique de 2001. De toute façon, personne ne sait qui dirige vraiment dans le film. Donc, des tas de nouveaux enregistrements ont surgi, se sont très bien vendus aussi. Donc là-dessus, DECA a fait une énorme erreur. Alors, ça, ce sont les compositeurs et les morceaux qui sont cités dans le générique du film. Maintenant, est-ce que c'est tout? Alors, c'est pas tout à fait tout. On a cité Aventure de Ligeti, qui est une pièce assez particulière pour chanteurs solistes et quelques instrumentistes, qui est une sorte de tentative de théâtre instrumental et vocal. Donc, Kubrick utilise un petit extrait dans le film, un petit peu transformé. On en reparlera. Est-ce que c'est tout? Alors là, on a donc de la musique classique, de la musique contemporaine, pas de musique pop dans ce film, pas de jazz. Bon, ben on oublie des choses que je vais vous montrer. Alors, il y a les chansons, absolument, mais avant même les chansons, nous avons ceci. Est-ce que ça va se lancer? Est-ce qu'on va avoir du son? Non, je veux pas iTunes. Alors attendez. Non, non, mais ça vous rappelle quelque chose? Donc c'est une musique qui est dans le film, de façon très brève, au moment où à la télévision on regarde le bulletin d'information à la BBC 12. Donc c'est un morceau de jazz des années 50, écrit par quelqu'un qui s'appelle Sidney Torch. Donc c'est la seule apparition de jazz dans le film, et c'est important de le signaler parce que alors Kubrick, quand il était étudiant, a été batteur de jazz, et il y a très souvent du jazz dans ses films, même si c'est de façon un peu fugitive comme ici. Et puis donc il y a des chansons. Alors combien de chansons dans le film? Ah bah c'est pas un piège, hein, c'est facile. Non, mais des chansons de chanter. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Il y a la chanson Joyeux anniversaire qui est chantée par les parents de Franck au visiophone en différé. Et puis il y a la chanson qui est chantée par Hal au moment de sa déconnexion. Une chanson qui s'appelle Daisy. Alors Daisy, c'est une chanson écrite par un compositeur britannique, Harry Dacre ou Decker, qui a été rendue célèbre à cette époque au music hall, notamment par une artiste de music hall qui s'appelait Katie Lawrence, qui a été reprise cette chanson par de nombreux artistes, notamment enregistrée en 63 par Nat King Cole. Je vais vous faire écouter cette version de Daisy.
A stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two.
Voilà. Alors cette chanson lui est arrivée quelque chose de particulier en 1961. Est-ce que quelqu'un le sait dans la salle? Cette chanson, c'est la toute première chanson à avoir été chantée par un ordinateur. En 61, donc elle a été reproduite en synthèse vocale par un ordinateur IBM, un IBM 7094. C'est une programmation qui a été réalisée au laboratoire Bell par John Kelly et Carol Lockbaum. Donc il en existe un enregistrement. Sur cet enregistrement, en fait, on entend deux ordinateurs, un ordinateur qui chante et un deuxième synchronisé qui joue l'accompagnement. Et donc je vais vous faire écouter cette version donc, qui date de 1961. Voilà, donc c'est tout sauf un hasard, si c'est cette chanson précisément qu'on a donnée à chanter à Hal, qui lui en donne cette version, peut-être un peu plus... Bon, alors non, dans la version française, c'est devenu Au clair de la lune. En fait, dans la plupart des pays où le film a été doublé, la chanson a été échangée parce que Daisy n'est pas une chanson qui s'est tellement exportée. Mais on perd ce rapport avec la réalité qui est que voilà, ça a été effectivement la première chanson de l'histoire de la musique et de l'informatique à être chantée par un ordinateur. Donc il y a également Joyeux anniversaire. Alors là, c'est un cas très particulier parce que c'est une chanson qui vient se superposer à un autre morceau de musique. On a en arrière-plan l'adagio de Gayane de Khachaturian et par-dessus les personnages qui chantent cette chanson. Ça augmente l'aspect assez pathétique de cette scène où de toute façon il n'y a pas de communication possible entre Franck et ses parents puisqu'ils se parlent en différé. Lui semble totalement indifférent à cette conversation et voilà, l'impression elle est renforcée par le fait que même en quelque sorte la narration ne s'occupe pas non plus du fait qu'ils ont commencé à chanter, comme si en table de mixage on s'était dit bon allez on coupe pas la musique, de toute façon le joyeux anniversaire n'est pas très intéressant, pas très important, donc les deux se mélangent et ça donne à cette chanson qui normalement est joyeuse quelque chose de particulièrement sinistre. Ça entre, voilà, ces deux chansons entrent aussi dans un procédé intéressant dans le film et que Kubrick utilise dans d'autres films, des moments où finalement la frontière entre musique et bruitage commence à se dissoudre. Et il y a des expérimentations qui sont faites sur la musique pour la modifier, la triturer. Et dans un cas extrême, ça devient aventure. Alors aventure, si j'arrive à le repérer. Alors aventure non modifiée de Ligeti, ça commence comme ça. Je ne vais pas vous l'écouter en entier, parce que ça dure 10 minutes, mais le début. Et donc, c'est un extrait d'aventure qui est utilisé dans la scène finale où Dave Bowman se retrouve dans cette chambre d'hôtel un peu mystérieuse. Et donc, Kubrick et ses techniciens ont pris un tout petit morceau d'aventure qu'ils ont transformé en rajoutant de l'écho peut-être un peu de distorsion, et puis surtout en le faisant tourner en boucle pour le transformer en bruitage extraterrestre. Ça, quand Ligeti l'a découvert, il était très contrarié, puisque là, on ne lui a pas demandé l'autorisation de modifier sa musique pour la transformer en bruitage. Il était très fâché. Ce petit morceau-là, on l'entend dans le film, par exemple. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu un échange quand même de courrier d'avocats entre la MGM et Ligeti. J'en parlerai en toute fin s'il nous reste du temps. Pour terminer, enfin, il y a, à mon avis, dans le film, des sous-marins de musique électroacoustique ou électronique qu'on ne va pas forcément associer à la musique de façon immédiate quand on voit le film. Néanmoins, quand on les isole, pour moi, il n'y a aucun doute, ce sont des notes de musique, notamment ici. On pourrait... Voilà, si vous situez, c'est la scène où Dave va s'éjecter de la sphère sans son casque pour se réintroduire dans le vaisseau. Et là, ce qu'on entend, c'est une note parfaitement identifiable sur un rythme régulier. Il va y avoir un deuxième motif qui va venir se superposer. On pourrait très bien faire une partition de ça, le faire jouer par un piano ou par d'autres instruments. Donc, ce sont des bruitages qui, en fait, sont en quelque sorte de la musique électronique. Il y a deux ou trois apparitions comme ça dans le film. Voilà, là, on a fait le tour de ce qu'on a dans le film tel qu'on le connaît. C'est un mélange de choses assez diverses. Donc, on a de la musique romantique, post-romantique, de la musique contemporaine atonale, et même chez Ligeti, des choses très diverses pour orchestre, pour chœur seul. Donc on va regarder quelques exemples. Alors ça, c'est je passe rapidement, c'est ce qu'on appelle la cue sheet, la liste de toutes les musiques qui apparaissent dans le film dans leur ordre d'apparition. Ça vient des archives de la MGM. C'est un document assez peu lisible, mais enfin intéressant, parce que vraiment là tout est mentionné, y compris l'extrait de Sydney Torch pour la BBC 12, y compris Aventure, voilà. Alors, la partition de Zarathustra, je vous montre brièvement cette première page, pas juste pour faire savant, mais parce que ça nous éclairera dans un second temps. Tout à l'heure, je vous montrerai une autre partition étonnamment proche. Donc, en deux mots, même pour ceux qui ne savent pas lire la musique, ce qu'on voit là, donc, on a la liste de tous les instruments de l'orchestre, avec les plus graves en bas, les plus aigus en haut, et ça serait bien de ne pas avoir ça là. Bon. Voilà. Donc le morceau commence par quatre mesures où on a. Ah oui. Non, mais... quatre mesures où on a donc juste une basse qui est posée par les contrebasses et l'orgue. C'est un effectif assez important. Il y a même donc un orgue qui accompagne l'orchestre. L'orgue et les contrebasses qui jouent un do, qui est soutenu par un roulement de grosse caisse, un gros trommel, là, pendant quatre mesures. Et puis la cinquième mesure, qu'est-ce qui se passe? Les cuivres arrivent, quatre trompettes qui jouent donc le motif do, sol, do. Ensuite, on a un tutti, là, tous les instruments qui rentrent pour jouer les deux premiers accords. Alors, sur le plan harmonique, c'est un morceau d'une simplicité assez confondante, hein, puisqu'on a une base de do qui dure absolument tout le temps. Et puis, on va avoir deux accords qui vont être posés successivement. Un do majeur, puis un do mineur. Puis, pauken, ce sont les timbales. Donc, on voit à gauche des triolets de timbales qui font le pom, 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 pom. Et puis à la page suivante, on retrouve exactement la même chose, sauf que les accords sont inversés. On a d'abord le do mineur et on revient sur le majeur. Et puis il y a une coda qui est un petit peu plus complexe, mais enfin c'est d'une simplicité étonnante. Si le piano n'était pas à 10 mètres de nous, je vous montrerai ce que ça donne. En fait, quand on joue au piano et si on enlève les nuances, qu'on joue tout de façon égale, c'est un morceau extrêmement simple. Après, c'est l'orchestration qui va lui donner cette puissance et les contrastes entre la basse pianissimo du début puis le moment où ça explose. Donc voilà, quatre mesures avec juste la basse, les cuivres qui rentrent, puis tout l'orchestre, puis la timbale. On en reparlera plus tard de ça. Deuxième exemple très rapidement, ça c'est la partition du début du Danube bleu. Alors, je vous la montre parce que cette valse, elle a deux caractéristiques. importante qui, à mon avis, contribue au fait qu'elle a été choisie pour le film, pour la séquence dans laquelle elle sert. Elle démarre de façon très progressive. Et d'ailleurs, elle ne démarre pas sur un tempo de valse. Là, on a du mal à lire, mais c'est un 6-8. Le 3-4 de la valse arrive plus tard. Donc là, on a une introduction sur un rythme différent. Et puis, ça commence pianissimo avec juste les violons qui posent un petit trémolo avec l'accord de départ. Et puis, ce sont les corps qui, en solo, donc c'est un corps solo d'ailleurs qui émet le thème au tout début, qui commence à énoncer le thème. Et l'orchestre va rentrer très progressivement. Cette introduction et ce démarrage progressif jouent un rôle important dans la scène en question, parce que si vous vous rappelez, le morceau démarre juste après le fameux raccourci où l'os lancé en l'air par l'anthropoïde devient une navette et où on a changé d'époque. Cette ellipse qui pourrait ressembler à un fondu, ce n'est pas du tout un fondu, on a un montage cut, et dans le mouvement, on a la forme de l'os qui est remplacée par la forme du vaisseau, qui se déplace dans le même sens. Ce cut, s'il est souligné par l'apparition brutale d'une musique au moment où le vaisseau apparaît, l'impression de fondu est cassée. Alors que comme la musique là, arrive très progressivement, ça ajoute de la fluidité à cette transition. On va voir tout à l'heure que dans les morceaux musicaux qui ont été utilisés avant le Danube bleu pour illustrer cette séquence, on n'avait pas cet effet d'entrée progressive. Et c'est peut-être pour ça que ces morceaux n'ont pas été conservés. Voilà, on l'a vu, il n'y a pas de musique originale pour 2001. Les morceaux les plus... Alors certains morceaux sont très récents. Il y a des morceaux de Ligeti dans le film qui ont été écrits un an, deux ans, trois ans avant le film. Donc c'est de la musique ultra contemporaine au sens strict, mais elle n'a pas été écrite pour le film. Je vous montre très brièvement le début de la partition de Lux Aeterna, juste pour vous dire comment ça fonctionne stylistiquement. Lux Aeterna, donc c'est pour chœur a cappella. Dans le chœur classique, on va dire classique et d'ailleurs baroque, en général, on a quatre voix, deux voix d'hommes, deux voix de femmes. Là, il reprend cette division, mais il complique les choses en mettant quatre voix pour chaque voix. Donc au total, on a 16 pupitres qui chantent des parties différentes. Donc là, on voit au début du morceau, il y a les voix de femmes qui commencent toutes seules. Donc on a quatre voix de soprano, donc soprane 1, 2, 3, 4, et quatre voix d'alto 1, 2, 3, 4, qui vont démarrer. Alors si on regarde les notes qui sont chantées, ça a l'air, vu de très loin, ça a l'air compliqué. En fait, tout le monde chante exactement la même note. On a 8 pupitres qui vont chanter le même Fa. Simplement, tout le monde n'entre pas au même moment. Alors, Ligeti, dans cette œuvre et dans d'autres, il développe un principe esthétique qu'il a appelé, je ne suis pas sûr que le terme soit de lui, mais enfin, qu'il appelait micropolyphonie, et qui consiste à avoir dans l'espace et dans le temps une musique où les choses se font progressivement. Les notes qui sont jouées ou chantées par les différentes parties, quand elles se déplacent... Ici, par exemple, tout le monde commence par chanter ce Fa, mais à un moment donné, ça va devenir un Mi. Mais tout le monde ne passe pas au Mi en même temps. Il y a des micro-décalages qui vont faire qu'on n'entend pas le Mi arriver. Ça produit une espèce de fondu. Et tout le morceau est écrit comme ça. Et dans les moments où il y a des harmonies qui commencent à se créer, parce qu'au début, tout le monde chante les mêmes notes, mais ensuite, des harmonies arrivent qui sont quelquefois dissonantes, quelquefois consonantes. Il y a quelques accords parfaits dans le morceau. Mais même ces accords n'arrivent pas brutalement avec tout le monde qui, au même moment, change d'accord. Mais il y a des micro-décalages qui font que les accords mettent un certain temps à arriver, à émerger, et l'oreille finit par les identifier. Et puis, de la même façon, ils disparaissent en se transformant en autre chose progressivement. C'est ça, grosso modo, le principe de la micropolyphonie. Je ne vous en parle pas gratuitement non plus, ça fera écho à quelque chose tout à l'heure. Ça, c'est la suite de Lux Aeterna. Bon. Et juste pour s'amuser, ça, c'est le début de la partition d'Aventure. Alors là, l'éditeur a eu un problème, c'est que la partition était tellement complexe en termes de notation que finalement, la partition, elle reproduit en facsimilé le manuscrit. Et comme il y a des annotations absolument partout, il y a pratiquement la moitié de la partition qui en fait consiste en des explications. Donc vous voyez là, vous avez page 2, premier système, page 2, deuxième système. Donc on vraiment mesure par mesure, vous avez des lignes et des lignes qui expliquent aux interprètes comment comprendre les annotations de Ligeti pour cette partition. Je pense que le travail de mise en place d'un morceau comme celui-là, il est hallucinant. Voilà, ça c'est juste aventure. Alors, il n'y a pas de musique originale dans 2001. C'est un film qui repose donc sur une playlist, hein, une mixtape, comme on dit en français maintenant, de morceaux classiques et contemporains qui ont été choisis par le réalisateur, quelquefois de longue date, mais pas toujours, ça on va le voir. C'est une manière de procéder, évidemment, qui a des représentants encore dans le cinéma aujourd'hui, notamment Quentin Tarantino. Et puis, qui a un avantage immense sur le plan commercial, c'est qu'ensuite, ça permet de vendre des disques, et beaucoup de disques, surtout si dans le film, on propose aux spectateurs d'entendre des morceaux qu'ils connaissent déjà, ça fait toujours plaisir. Alors, Kubrick est-il le premier à procéder comme ça ? Bah, non. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, c'est un retour à la musique du cinéma muet. Dans le cinéma muet, vous aviez dans une salle de cinéma bien souvent un pianiste dont le travail était d'accompagner le film en improvisant. Et comment on improvise pour accompagner un film ? Ben, on pioche dans une banque musicale de morceaux classiques, de thèmes populaires, etc. Et donc, que vous alliez voir un film de Buster Keaton ou de Chaplin, vous allez réentendre d'une semaine à l'autre le même melting pot, le même pot pourri de voilà, vous aurez peut-être un bout du Danube bleu, un bout de Guillaume Tell, de Rossini, etc., etc. Et pourquoi pas Au clair de la lune au moment opportun. Le cinéma muet fonctionne comme ça. Il y a des films pour lesquels on commandait une partition au compositeur. Cette partition, elle pouvait éventuellement être exécutée par un grand orchestre pour des projections de prestige. Elle donnait lieu généralement à une réduction pour piano qu'on pouvait envoyer dans les salles. Mais enfin, est-ce que le pianiste de la salle qui recevait sa partition, ça l'amusait vraiment pour chaque nouveau film de se taper 2 heures de musique à déchiffrer ? Pas sûr. Personne n'était là pour contrôler ce qu'il jouait. Donc je pense que bien souvent, c'était l'improvisation. Et donc voilà, cette esthétique qui consiste à plaquer des morceaux qu'on connaît déjà sur des images nouvelles, c'est quelque chose qui est aussi vieux que le cinéma. Alors pourquoi Kubrick procède-t-il ainsi ? Donc lui, il s'en est justifié d'une manière qui est un petit peu étonnante. Et notamment, on trouve dans des entretiens avec le critique Michel Simon les propos que je vais vous citer. Et il dit « À moins que vous ne vouliez une musique pop, il est vain d'employer quelqu'un qui n'est pas l'égal d'un Mozart, d'un Beethoven ou d'un Strauss pour écrire une musique orchestrale. Pour ça, on a un vaste choix dans la musique du passé. Parfois, il y a de la musique moderne intéressante, mais si vous voulez une musique d'orchestre, je ne sais vraiment pas qui va vous l'écrire. » Et donc il continue en disant « Dans 2001, j'ai utilisé Ligeti, compositeur contemporain, mais si on veut utiliser la musique symphonique, pourquoi demander à un compositeur qui, de toute évidence, ne peut pas rivaliser avec les grands musiciens du passé ?» Et c'est un tel pari que de commander une partition originale. Elle est toujours faite au dernier moment, et si elle ne vous convient pas, vous n'avez évidemment pas le temps de changer. Alors, est-ce que ces déclarations sont absolument sincères ? Elles le sont peut-être au moment où elles sont prononcées. En même temps, si on regarde la carrière de Kubrick, il a travaillé avec des compositeurs, notamment à ses débuts. Il avait un ami, Gerald Fried, qui a fait la musique de ses premiers films. Il y a des choses d'ailleurs très intéressantes dans la musique de Gerald Fried, notamment pour Les Sentiers de la Gloire, qui est une musique qui est entièrement aux percussions. Donc il a travaillé avec bonheur avec des compositeurs dans son passé. Et on va le voir, pour 2001, il a de lui-même convoqué un certain nombre de compositeurs pour travailler sur la musique du film. Donc, dans ses propos, il procède à une sorte d'auto-justification a posteriori. Et notamment pour 2001, il a commandé une partition orchestrale auprès d'un compositeur de musique de film. Cette partition, elle a été enregistrée. Et finalement, Kubrick a décidé de ne pas l'utiliser. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, comment le corps musical de ce film a-t-il été conçu ? Comment a-t-il été assemblé ? Est-ce qu'il a été conçu à un moment donné comme un tout ou au contraire par ajouts successifs ? C'est de ça que je vais vous parler maintenant. Et pour vous en parler, je vais prendre la chronologie de la production du film qui s'étale exactement sur 4 ans. Ça démarre en mars 1964 et le film sort en avril 1968. Le 31 mars 1964, Stanley Kubrick écrit une lettre à l'écrivain Arthur C. Clarke pour lui proposer de le rencontrer à New York et d'écrire ensemble le scénario de son prochain film. Clark accepte, ils se rencontrent au mois d'avril. Au mois de mai, ils se voient presque tous les jours pour travailler ensemble. Ils s'accordent assez vite sur le fait que c'est la nouvelle de Clark, La Sentinelle, qui va servir de point de départ au scénario. Et se mettent également d'accord sur une manière de procéder assez atypique, qui est qu'ils vont écrire ensemble le scénario et qu'en parallèle, ils vont écrire, ou Clark va écrire, mais avec l'aide de Kubrick, un roman qui va être développé exactement en même temps que le film et dont, au départ, le projet est de sortir le roman au même moment que le film. On verra que ce n'est pas ce qui se passera réellement, mais c'était ça l'idée. Clark termine la première version du roman en décembre 1964. Au cours de l'été 64, Kubrick lui a approché la MGM pour financer le film. En février 65, la MGM donne un communiqué de presse qui annonce le prochain film de Kubrick qui s'intitule à ce moment-là Journey Beyond the Stars, Voyage au-delà des étoiles. Au printemps de cette année-là, 65, Clark et Kubrick rencontrent longuement Jeremy Bernstein, qui en tire une série d'articles pour le New Yorker qui paraissent plus tard, en 66. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a un journaliste qui rencontre un réalisateur et un scénariste et qui lui parle, qui lui accorde des entretiens très longs sur un film qui n'est pas encore fait. Il discute avec lui du scénario, de ce qu'ils aimeraient faire. Il est même question de musique. Et c'est un témoignage très, très étonnant et assez rare d'un projet qui est encore à l'état d'embryon et de deux créateurs qui en parlent assez librement. Donc Bernstein raconte notamment ceci. « J'ai constaté qu'il y avait là un phonographe et une énorme quantité de disques, presque tous de musique contemporaine. Et Kubrick m'a dit qu'il pensait avoir écouté presque toutes les compositions modernes qui existaient au disque à cette époque, dans le but de décider quel style musical conviendrait au film. Et là encore, dit Kubrick, le problème était de trouver des sonorités inhabituel et identifiable, mais pas inhabituel au point de devenir une distraction pour le spectateur. Donc Bernstein raconte, dans le bureau se trouvait une collection de disques comprenant de la musique concrète, de la musique électronique et des disques du compositeur contemporain allemand Karl Orff. Dans la plupart des cas, disait Kubrick, la musique de film tente à manquer d'originalité et un film sur le futur devrait être le lieu idéal pour une partition vraiment marquante signé par un grand compositeur. On peut donc supposer qu'à ce stade de la production, Kubrick espère effectivement embaucher un compositeur susceptible d'écrire pour son film la grande partition dont il rêve. Alors, quels sont les compositeurs qu'il a envisagé de faire travailler ? Nous allons le voir maintenant. En décembre 1966, la première version du scénario est terminée et le tournage débute le 29 décembre. Alors, quels sont les besoins en musique qui sont exprimés par le scénario à ce stade ? Si on regarde le script, il y a juste deux interventions musicales qui sont mentionnées. Il y a les deux chansons « Happy Birthday » chantées par les parents de Frank et « Daisy » chantée par Hal. Un détail quand même, les astronautes ont bien failli jouer de la musique à bord de Discovery, comme en témoigne cette photo de plateau. Il y avait un clavier sur le vaisseau. En fait, Kubrick précise, il y avait également une table de ping-pong et une douche à bord du vaisseau. Mais nous n'avons décidé, en fin de compte, de ne pas les intégrer, car ça ne semblait pas intéressant ou indispensable. Voilà. Alors, en 1966, en février, Kubrick organise en présence de Clark une projection qui est destinée au cadre de la MGM pour les montrer un petit peu où en est le film qui est en train de se faire. Et donc Kubrick projette un montage brut de plusieurs séquences. Le trajet de la navette Orion vers la station spatiale et la navette Ariès se dirigeant vers la Lune, mais quelques scènes lunaires. Et d'après les notes de Clark, cette projection elle est accompagnée de musique. Il y a d'une part le scherzo du songe d'une nuit de Mendelssohn pour accompagner le voyage vers la Lune, et d'autre part des extraits de la Sinfonia Antarctica de Ralph Vaughan Williams pour les scènes lunaires et apparemment aussi pour les scènes de la Porte des Étoiles dont il semblerait que quelques morceaux ont été montrés. Mais ça, je ne sais pas absolument certain, les sources diffèrent là-dessus. En tout cas, voilà, deux certitudes. Un scherzo de Mendelssohn pour le voyage vers la Lune et un morceau de la Sinfonia Antarctica pour les scènes lunaires. Alors, le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, donc c'est une musique de scène pour la pièce de Shakespeare. Alors, il y a un morceau très connu de cette musique, je ne sais pas si quelqu'un peut me le citer. L'un des morceaux les plus connus du monde vient de là, c'est la marche nuptiale. Oui, j'ai entendu quelqu'un le murmurer. Donc voici juste les premières secondes. Voilà. Donc ça, c'est le son que je vous disais. Alors, ce n'est pas ce morceau-là que Québec a mis dans son montage, mais ça vient de la même œuvre. Donc, on sait avec précision, ça c'est certain, parce que c'est resté tel quel pendant très longtemps. En fait, le scherzo de Mendelssohn sur la scène de la navette, il est resté en place jusqu'à quelques mois avant la sortie du film. Et quand on revoit la scène et qu'on pose dessus le Mendelssohn, c'est étonnant parce que à quelques secondes près, ça colle. Il y a deux inconnus. Il y a d'une part le fait que je ne sais pas exactement quel disque il avait sous la main à ce moment-là. J'ai choisi une interprétation de cette époque-là dirigée par Klemperer, mais il y a d'autres disques qui existaient. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il a changé d'avis et où il a mis le Danube bleu, il a fait quelques ajustements dans le montage pour que ça colle. Donc moi, pour que ça colle avec le Mendelssohn, j'ai de nouveau dû faire quelques ajustements minimes, mais vraiment, c'est-à-dire que ça joue sur des microsecondes que j'ai dû enlever à droite et à gauche pour que ça fonctionne, mais la scène est identique. Donc je vais vous montrer ça, et ensuite je vais vous montrer un bout de scène lunaire avec un extrait de Vaughan Williams. Alors là, c'est une hypothèse, parce qu'on ne sait pas quel est l'extrait de la symphonie qui a été utilisé. J'ai quand même des indices, c'est que sur cette séquence, qu'on reverra plus tard avec d'autres musiques, il y a toujours eu des chœurs féminins. Il se trouve qu'il y a des chœurs à certains moments dans la symphonie, donc j'ai choisi un passage avec des chœurs féminins qui me semble devoir être assez proche de ce que Kubrick a fait ou souhaitait pour cette séquence. Donc là, deux extraits. Et là, je veux bien qu'on baisse la lumière, si c'est possible. Le passage avec le stylo marche pas très bien avec cette musique. Je sais pas si à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient baissé un petit peu la musique pour mettre des bruitages. Là, tel quel, moi je suis pas convaincu. Williams.
As there seems to be no more questions, I think we ought to get on with the briefing. Thank you, Dr. Floyd.
Thank you.
On peut remettre la lumière, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces... C'est trop sautillant, le Mandelson. Oui.
Ça accélère sacrément la perception de la scène.
C'est vrai. Elle colle bien, mais elle... Je suis d'accord. En fait, elle colle trop bien. Elle fait très musique de film. Symphonie Antarctica, c'est peut-être bien la septième. Je connais très très mal Vaughan Williams, donc là j'ai peur de dire des bêtises, vous chercherez. Voilà, il va falloir que j'accélère parce que j'ai passé trop de temps depuis. Donc voilà où on en est en février 66. Alors, en mars-avril, on commence à faire le tournage des séquences de la centrifugeuse. Et pour le tournage de la scène où... où l'acteur fait du jogging dans le vaisseau, Kubrick passe sur le plateau une valse de Chopin à ce moment-là, pour donner un certain rythme à la séquence. Alors, l'idée n'est pas du tout de la garder dans la bande-son, mais simplement d'insuffler quelque chose à ce moment-là. Voilà une photo de plateau du tournage de 2001 où on voit Kubrick avec son tourne-disque qui passe des disques pendant qu'une scène est en train d'être tournée. Alors ça, c'est pour après. Alors, très tôt dans le processus d'élaboration du film, Kubrick utilise des musiques de travail, des musiques temporaires qu'il appelle les « theme tracks », qui n'ont pas forcément vocation à rester dans le montage final, mais qui sont là soit pour créer sur le plateau une certaine atmosphère, ou simplement pour aider à insuffler un certain rythme au montage, en salle de montage. Ça ne veut pas dire qu'il ait renoncé à son rêve d'une grande partition originale. Et parmi les compositeurs auxquels il a pensé et qu'il a vraisemblablement contacté pour écrire une musique pour le film, il y a le compositeur allemand Karl Orff, qui est l'auteur des Carmina Burana, que vous situez probablement, et qui ont depuis d'ailleurs été beaucoup utilisés au cinéma, et notamment dans Excalibur. C'est un fait qui a été contesté. Est-ce qu'il a vraiment contacté Karl Orff ou pas? Il semblerait bien que oui, même si cet échange n'a jamais été publié. La version officielle, c'est que Karl Orff a répondu par la négative en se jugeant trop âgé. En fait, la carrière de Karl Orff, elle était loin d'être terminée à cette époque. Il avait 71 ans en 66, mais il a continué à composer jusqu'à la fin des années 70. Ce qui est sûr, c'est que Kubrick écrit à Karl Orff pour lui demander de lui recommander un confrère. Et là, on a une trace d'un échange écrit, un télégramme que Kubrick envoie à Karl Orff en avril 66 et qui lui dit, grosso modo, ça m'intéresserait que vous me recommandiez deux jeunes compositeurs dont vous admirez le travail. L'histoire ne dit pas si Karl Orff a répondu ou pas. En tout cas, voilà, ce texte-là, il a été publié. Ce qui est sûr, c'est que avant ou après le refus de Orff, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Kubrick a envisagé à un moment d'utiliser des extraits de Carmina Burana dans le montage du film. C'est même une hypothèse qui est restée valide très longtemps. Elle a été invalidée assez tard et je vous dirai à quel moment. J'avais fait des exemples de montage avec des extraits de Carmina Burana, mais je ne vais pas vous les montrer, sinon on ne pourra pas voir Alex North, et c'est quand même ça le plus important. Karl Orff n'est pas le seul compositeur que Kubrick est approché. Il a contacté celui qui était sans doute peut-être le plus grand compositeur de musique de film de son temps, Bernard Herrmann, connu surtout pour ses partitions pour les films d'Orson Welles et d'Alfred Hitchcock. Ce n'est pas la première fois que Bernard Herrmann était contacté par Kubrick. Kubrick lui avait déjà proposé la musique de Lolita. Bernard Herrmann avait refusé Lolita parce que Kubrick tenait absolument à ce que soit intégré à la partition le thème de Lolita qui avait été composé par J. Robert Harris, qui était le frère de Bob Harris, ami et producteur de Kubrick, James B. Harris. J. Robert Harris, dit Bob, était le frère de son producteur James B. Harris. Alors J. Robert Harris, il est connu pour un thème musical, c'est lui qui en 67 écrit le thème de Spider-Man que vous connaissez tous. Bref, Bernard Herrmann refuse de faire Lolita parce qu'il est hors de question pour lui d'intégrer le thème écrit par le premier venu dans sa propre partition. Et pour 2001, il se passe à peu près la même chose. Bernard Herrmann pose deux conditions pour faire la musique du film. D'abord, il veut être payé le double de ce qu'il est payé habituellement, parce qu'il a très bien compris qu'il y aurait énormément de musique dans le film et qu'elle aurait le premier rôle. Et puis surtout, il précise qu'il est hors de question que sa musique côtoie de la musique d'autres compositeurs. Et c'est probablement là que ça coince, c'est-à-dire que Kubrick, lui, veut se laisser la possibilité de faire un montage de choses diverses, et donc ça ne se fait pas. Après ça, Kubrick recrute un compositeur et chef d'orchestre anglais qui s'appelle Frank Cordell. Et il ne lui commande pas une partition originale, mais il lui confie une mission assez curieuse qui consiste à réarranger et réorchestrer et réenregistrer des passages de la 3e symphonie de Gustav Mahler. Alors pourquoi ? Ça, je n'en sais rien. Bizarrement, Gustav Mahler ne fait pas partie des pistes temporaires dont on sait qu'elles ont été utilisées en salle de montage ou en tournage. Mais apparemment, Kubrick souhaitait utiliser des morceaux de cette symphonie pour son film, probablement agencés différemment de la manière dont ils le sont dans l'œuvre. Peut-être qu'il pensait qu'il n'aurait pas l'autorisation de prendre un enregistrement existant et de le charcuter, de le remonter. Donc il a dit à Cordell de faire des propositions d'arrangement, d'orchestration de certains extraits. Il est même possible que ça ait été enregistré, mais il n'y en a pas de traces. Aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Frank Cordell y travaille un certain temps, quelques semaines en tout cas. Et puis on arrête. On ne sait pas non plus très bien pourquoi. J'essaie d'accélérer un peu. On arrive en juillet 66. Le tournage est interrompu pour la mise au point des effets spéciaux. Alors, toutes les scènes ne sont pas encore tournées. Il reste notamment l'aube de l'humanité qui n'est pas faite. Début 67, d'ailleurs, pendant que le travail sur les effets spéciaux commence, une équipe part en Namibie prendre des photos de paysages qui serviront pour les projections frontales de l'aube de l'humanité. Le 18 août 67, là, il se passe quelque chose de très important. Christiane Kubrick, l'épouse du réalisateur, qui est peintre, a l'habitude d'écouter la radio tout en peignant. Et ce jour-là, à la BBC, elle entend le Requiem de Ligeti et elle se dit que ça serait formidable dans le film. Elle en parle à Kubrick, qui immédiatement se met en quatre pour essayer d'obtenir un enregistrement de cette œuvre qui n'a jamais été publiée au disque à ce moment-là. Donc c'est un peu compliqué. Il finit par recevoir en octobre une copie sur bande du Requiem. Au même moment, on tourne l'aube de l'humanité. En novembre, Kubrick recrute un autre compositeur, Gerhard Schurmann, comme conseiller musical. Alors, pas pour écrire de la musique, mais pour avoir son avis sur les morceaux classiques qu'il envisage d'utiliser. Schurmann raconte « Je l'ai vu à sa demande, sans doute quatre fois, et ce que nous faisions lors de ces rencontres, c'est qu'il me passait des disques et nous discutions de leur utilisation possible dans le film. » Je me rappelle que le beau Danube bleu faisait déjà partie des choses qu'il envisageait avec un éclat particulier dans le regard. Mais d'après Shurman, Kubrick ne sait pas encore pour quelle séquence il pourrait l'utiliser. Et à ce stade, il n'est pas encore question d'Ainsi parlait Zarathoustra, qui ne fait pas partie des disques qu'ils écoutent ensemble. Kubrick fait écouter à Gerhard Schurman une grande quantité de musique romantique pour piano, et Schurman le met en garde contre l'utilisation de morceaux pour piano seul, car selon lui, ça ne serait pas bon de lier la musique du film à un instrument particulier. Il pensait qu'un instrument solo tirerait les spectateurs en dehors du film. Ils ont également discuté de l'utilisation de plusieurs œuvres chorales, et Kubrick lui demande ce qu'il pense des Carmina Burana de Karl Orff. Et là, Schurman répond... je lui ai dit que ma vision personnelle de l'enfer, c'était d'être attaché sur une chaise et forcé d'écouter ça. Donc, c'est le moment où Kubrick renonce à utiliser Carmina Burana. C'est également Gerhard Schurman donc, qui le dissuade définitivement d'utiliser de la musique pour piano dans le film. En revanche, il discute notamment d'atmosphère de Ligeti. Kubrick s'interroge, se demande s'il doit aller aussi loin que ça dans ses choix musicaux, et là Schurman l'encourage à le faire. À une date non connue, mais à peu près au même moment, fin 67, Kubrick demande à son beau-frère Jan Harlan de l'aider à trouver une musique bien particulière qu'il lui décrit. Et il lui dit « Quand tu viendras le week-end prochain, jette un œil à tous tes disques, s'il te plaît. Je cherche désespérément un morceau de musique qui serait très majestueux, très puissant et beau, mais qui aboutit à une fin. » Jan Harlan se rappelle que Kubrick voulait absolument quelque chose qui se termine rapidement. Et il explique que Kubrick était très pointilleux et très respectueux des compositeurs et il ne voulait absolument pas faire un fondu à la fin d'un morceau, ce qui est affreux. Et l'une des choses que je lui ai rapportées, c'était le Zarathustra de Strauss. En décembre de la même année, donc un peu en parallèle de tout ça, Kubrick téléphone à Alex North, donc le compositeur qui lui avait écrit la musique de Spartacus, pour lui demander s'il est disponible et lui proposer d'écrire la musique de 2001. Kubrick précise qu'il faudra écrire la musique sans pouvoir visionner un montage complet du film, car les effets spéciaux ne seront terminés qu'à la toute fin de la post-production. Alex North raconte « Kubrick m'a dit que j'étais le compositeur qu'il respectait le plus et qu'il avait hâte de travailler avec moi. J'étais fou d'excitation à l'idée de travailler de nouveau avec Kubrick. » Il vient donc passer 2 jours à Londres pour discuter avec Kubrick, qui lui fait écouter les musiques provisoires qu'il a sélectionnées. Alex North signe son contrat le 14 décembre pour un cachet de 25 000 $. Et il raconte « Kubrick a été très direct et très honnête avec moi, expliquant qu'il souhaitait conserver une partie des musiques temporaires, mais je ne pouvais accepter l'idée de composer des morceaux d'une partition qui allait alterner avec des morceaux d'autres compositeurs. J'avais le sentiment que je pouvais composer une musique qui contiendrait tous les éléments que souhaitait Kubrick et donner à l'ensemble une cohérence et une homogénéité de style dans un style contemporain. » Alors, au moment de l'écriture, Alex North va souffrir du poids de ses musiques temporaires d'une façon assez épouvantable, et notamment la lourde charge de remplacer le « Ainsi parlait Zarathustra », dont manifestement Kubrick lui impose de suivre exactement l'écriture. Et c'est pour ça que je vous ai montré la partition de Zarathustra tout à l'heure, parce que maintenant, on a ici une partition d'Alex North, et j'aimerais bien que ce machin disparaisse. C'est un morceau qui s'intitule Bones, et qui est destiné à remplacer le Zarathustra. Alors, comment ça commence ? Ben, on a 4 mesures avec une basse qui est posée. Après, on a les cuivres qui entrent. Et puis, on a un tutti avec tout l'orchestre et on a, en bas à droite, des timbales qui jouent des triolets. C'est exactement le même déroulement orchestral et rythmique que le Zarathustra. Et quand on entend le résultat, je vais vous le faire écouter, c'est presque triste à pleurer parce qu'on a envie de prendre Alex North dans ses bras et de dire « Mon pauvre, mais c'est affreux de faire ça à un compositeur » parce que Alex North, ce n'est pas un mauvais compositeur. Maintenant, comment c'est possible de faire quelque chose qui va remplacer Zarathustra en se calquant quasiment dessus? Ben, ça ne marche absolument pas. Ce morceau, il est consternant à tout point de vue quand on l'écoute. Il est extrêmement triste. Ça, c'est le cas Bones. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur la partition. Vous verrez que donc, le titre est écrit en gros tout en haut. Et juste à côté, on a MT. Alors, ça veut dire Main Title, c'est-à-dire, à un moment donné, Kubrick s'est dit, ce morceau-là qui accompagne la scène où l'anthropoïde découvre l'outil, je vais l'utiliser aussi pour le générique d'ouverture. Et donc, ça apparaît sur la partition. Ça prouve donc que le Zarathustra a été d'abord choisi pour la scène de l'os, puis reporté sur le générique qui n'était pas encore fait quand Alex North commence son travail. D'ailleurs, on ne lui commande pas de musique pour le générique. Au départ, le générique d'ouverture, ça doit être juste trois cartons avec le réalisateur, le titre et pas de musique. Et puis, à un moment donné, il se dit qu'il va utiliser cette musique à deux reprises. Voilà. Et Alex North va se retrouver aussi dans un cas de figure assez proche pour remplacer le scherzo de Mendelssohn. Il va écrire une musique qui se calque un petit peu, notamment pour le début. On va retrouver ce sautillement à 6-8 très proche. Donc, North revient à Londres le 24 décembre pour commencer à écrire. Donc là, il n'y a pas de fête de fin d'année. Le 24 décembre, il arrive et il se met au travail. Il voit la première heure de film avec Kubrick. Il en discute avec lui. Kubrick lui fournit un appartement sur les bords de la Tamise avec tout l'équipement nécessaire. Et l'enregistrement doit commencer le 1er janvier. Donc, en deux semaines, travaillant jour et nuit, Alex North compose et enregistre 40 minutes de musique. Il est aidé en cela par Henry Brandt, qui s'occupe des orchestrations. Alors, la très grande tension de cette période conduit North à souffrir de spasmes musculaires et de douleurs dorsales qu'il contraignent à venir en ambulance aux sessions d'enregistrement. Et c'est Henry Brandt qui dirige l'orchestre pendant que North est assis dans la régie. Alors, on a le témoignage de Brandt qui raconte... je vais accélérer, sinon on n'aura jamais le temps de voir les extraits. Il y a des témoignages assez contradictoires sur la manière dont les sessions se sont passées. Brandt raconte qu'il y avait des tensions. La femme de North qui était là raconte que Kubrick était très content, très élogieux, il n'y avait aucune friction. Il y a peut-être une duplicité de la part de Kubrick à ce moment-là, ou alors simplement le compositeur qui n'envisageait absolument pas que ça puisse mal se passer n'a retenu que les bons côtés. Enfin, même si globalement, dès cette période-là, il vit les choses assez mal, mais enfin, il ne se doute pas de ce qui va se passer ensuite. Ce qui se passe ensuite, c'est que après cette session d'enregistrement, Alex North, il attend la suite. Il espère travailler sur le mixage du film. Dans l'intervalle, il réécrit certains passages dont il n'était lui-même pas très satisfait. Kubrick, par téléphone, lui indique des modifications possibles en vue d'une deuxième session d'enregistrement. Donc là, on a un document passionnant qui est une partition. Voilà. Alors, vous voyez la notation. Donc, c'est la main de Henry Brandt qui a écrit « Stanley hates this, but I like it ». Donc, ça, c'est la musique qui accompagne le trajet de l'autobus lunaire en route vers le cratère. C'est une très, très, très belle séquence musicale, d'ailleurs. Donc là, on voit, il y a plein de corrections et d'annotations. Bon, ça laisse supposer un travail très difficile sur certains passages. Et donc, Alex North raconte, « Après 11 jours d'attente dans l'espoir de voir la suite du film, j'ai reçu un mot de Kubrick m'indiquant qu'il n'aurait pas besoin de musique supplémentaire, qu'il allait utiliser uniquement des bruits de respiration pour le reste du film. » C'était assez étrange, mais je me suis dit que m'en recontacterait peut-être quand même pour écrire des musiques supplémentaires. Je lui ai même dit que je pourrais, si nécessaire, le faire aux États-Unis, au studio de la MGM. Et rien ne se passa. Le film sort en avril. Alex North va voir le film avec son épouse. Les musiques temporaires sont là. Il n'y a pas une seule note de sa musique dans le film. Personne ne l'en avait prévenu. Il est effondré. Par la suite, les bandes magnétiques trois pistes sur lesquelles la musique a été enregistrée sont effacées pour être réutilisées. Et donc, tout ce qui nous reste de ces sessions d'enregistrement, c'est une copie médiocre sur cassette qui a été conservée par la famille North. Je vais passer et on va visionner un gros bloc du début du film avec toutes les musiques d'Alex North. Je zapperai des passages où il n'a pas écrit de musique. Donc la première apparition du monolithe, je zappe parce qu'il n'y a pas de musique dessus. La discussion avec les Russes, on va zapper. Et on zappera la fin de l'annulissage parce que bizarrement, la séquence avec la navette Ariès, il y a de la musique jusqu'aux toilettes, je crois. Et puis après les toilettes, il n'y a pas de musique. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la scène était plus courte ou là, j'en sais rien. Donc, trêve de bavardage. Et là, je veux bien qu'on coupe la musique. Là. Non, c'est l'inverse. On coupe la lumière. Et on y va. We'll be right back. comme dans le Strauss.
Ah!
Ok, bonne idée.
Thank you.
J'ai laissé volontairement les dialogues un peu en retrait pour qu'on entende bien la partition.
Did you have a good flight?
No, very nice.
Good. Well, shall we go through? Thank you, Mr. Turner.
Thank you. Pass.
Welcome to voice print identification. When you see the red light go on, would you please state in the following order your destination, your nationality, and your full name. Surname first, Christian name, and initial.
Moon, American, Floyd, Haywood R.
Thank you. You are cleared through voice print identification.
Thank you.
leaves in an hour and 10 minutes. As a matter of fact, I've reserved a table. It's been about 7 or 8 months since you've been here last week.
Let's see, last year. Yeah, 8 months.
I suppose you saw the work on the new section.
Hey, well, great.
Yeah, it's
fine. Oh, wait a minute. I got a couple of phone calls. You go on ahead and the rest of them to that.
Right.
Something for me, will you remember?
Yeah.
Tell Mommy that I telephone, okay? That I'll try to telephone again tomorrow. Will you tell her that?
Yes.
Okay, sweetheart. Have a nice birthday tomorrow. Have a nice birthday party tomorrow, too, huh?
All right.
Okay, now take care and be a good girl, won't you?
All right.
Bye-bye. Bye-bye. Happy birthday!
Donc on va passer les Russes qui ont la musique.
Your wife can come to the IAC conference in June.
Well, we're going to try.
Non viene, molto intruda.
Thank you.
là, il y a une ellipse dans mon montage, puisque la suite de la séquence vers la Lune est sans musique, et on va passer directement à la fin du briefing lunaire. Donc, ultime séquence musicale d'Alex North.
Speech you gave us, Edward.
It certainly was.
I'm sure it beefed up morale a hell of a lot.
Thanks, Ralph. Oh, by the way, I wanted to say to both of you, I think you've done a wonderful job. I appreciate the way you handled this thing.
The way we look at it, it's our job to do this thing the way you want it done. We're only too happy to be able to oblige.
Have you seen these yet?
What do they have?
Here's what started the whole thing.
When we first found it, we thought it might be another drop of magnetic rock. All the geological evidence was against it. Not even a big nickel iron meteorite could produce a field as intense as this. So we decided to have a look.
We thought it might be the upper part of some buried structure, so we excavated out on all sides, but unfortunately, we couldn't find
it. What's more, the evidence seems pretty conclusive that it hasn't been covered up by natural erosion.
Oh, great.
Good idea.
Well, you have any idea what the damn thing is, huh?
Wish the hell we did. No, the only thing we're sure of is it was buried 400 years.
Well, I must say, you guys have certainly come up with something.
It's no time.
pour allumer la lumière. Alors, mon exposé est loin d'être terminé tel que je l'avais conçu, mais le temps qui m'est imparti est écoulé largement. Donc, je vais vous donner la parole de 2-3 minutes et puis on en restera là. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce que vous avez vu et entendu ou des questions ? Absolument, oui, là c'est la copie de la vieille cassette conservée par la famille. Alors c'était le but, mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais je vois ce que vous voulez dire, absolument. Ouais. Tout à fait, ça je suis d'accord. C'est intéressant ça aussi. Ça, le fait de dire que c'est une musique de film, c'est une évidence, mais ce qui est vrai, c'est que ça a l'avantage et l'inconvénient de donner une unité. Et finalement, ce que Kubrick a choisi, c'est justement qu'il n'y ait pas d'unité de style dans les différentes musiques, de faire un peu un puzzle avec des choses qui viennent d'horizons... musicaux très, très divers. Alors, je vais juste répondre à une question que vous n'avez pas posée, mais qui a été posée ce matin en deux phrases. Pourquoi, c'est parce que ça peut paraître un mystère, pourquoi avoir fait venir Alex North fin 67, alors qu'il a déjà presque toutes ses musiques temporaires qui vont être définitives? Pourquoi lui avoir fait écrire ses musiques, puisqu'il avait déjà Zarathustra, pas encore tout à fait le Danube bleu, mais déjà Ligeti? Il y a deux réponses possibles qui ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre. La première, c'est qu'il a mis énormément de temps à faire un choix définitif parmi ses musiques temporaires, qu'il a nourri très longtemps l'espoir d'une belle partition originale cohérente qui mettrait un terme à ses hésitations et qui donnerait au film la bande sonore qu'il a continué à chercher jusqu'à très tard. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'était pas du tout sûr d'obtenir toutes les autorisations pour utiliser les musiques qu'il avait choisies, en particulier pour les musiques de Ligeti. C'était très compliqué parce qu'il y a un système de droits synchronisés. Il faut à la fois demander l'autorisation de l'éditeur musical des partitions et l'autorisation des interprètes. Et donc, les négociations sont en cours quand Alex North vient composer sa musique. Donc, évidemment, ça, Kubrick ne le raconte pas. Mais pendant que North travaille, Kubrick, lui, il passe des coups de fil, il envoie des lettres, etc., pour essayer de négocier les droits des différentes musiques qu'il a choisies. Et ça prend un certain temps. Les autorisations, elles commencent à arriver début 68, quand l'enregistrement de North est déjà terminé. Et donc, voilà, c'est une position pragmatique qui consiste à dire, au pire, j'aurai la musique d'Alex North dans laquelle je pourrais piocher, et une position esthétique qui dit « je ne sais pas encore exactement ce que je veux, donc je reste ouvert à des nouvelles possibilités le plus loin possible dans le processus ». On me fait signe qu'il faut qu'on s'en aille. Déçu, ça ne lui a pas plu, ça c'est sûr. S'il avait trouvé ça génial, il l'aurait utilisé. Bon, ben, ça ne lui a pas plu, évidemment. Ah non, mais Ligeti était... Oui, oui, ça, je vous en ai pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps. En fait, quand on regarde les partitions d'Alex North, il y a des moments où on voit que North aussi essaye de faire du Ligeti, il y a des morceaux de Cluster, etc. Et il semblerait même qu'il ait essayé d'écrire un morceau qui n'a pas été enregistré, qui était destiné à remplacer le Requiem, dont il existe juste un fragment de partition. Donc oui, Ligeti était déjà en lice à ce moment-là aussi. Voilà, c'était presque perdu d'avance pour Alex North en réalité. Je vous remercie d'être venu et d'être resté aussi tard. Merci.